Juges 16, versets 4 à 6. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek, et elle se nommait Delila. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1 100 sicles d'argent. » Delila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ?» Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Les liaisons dangereuses, voilà quelque chose qui peut vraiment illustrer une bonne partie de la vie de Samson. Le chemin suivi par Samson, un chemin qui a abouti pour lui à pousser la meule comme une mule. Nous allons donc parler ce soir des rapports de Samson avec les femmes. Relation, nous en sommes convaincus, qui révèle le caractère profond et puis aussi les faiblesses de Samson. Relations qui ont aussi précipité la chute de Samson. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que la présence féminine est très forte tout au long du cycle de l'histoire de Samson. Cela commence par sa mère. À vrai dire, il y a toujours une maman au tout début. Une mère à qui l'ange de l'Éternel se révèle. Mais au fond, nous ne connaissons pas grand-chose de cette brave femme. Pas même son nom. On connaît le nom de son mari, Manoac, mais elle, on ne connaît pas son nom. La seule chose que nous savons, c'est qu'elle fut fidèle à la mission que le Seigneur lui avait confiée concernant son fils. L'absence de nom, c'est aussi le cas de l'épouse philistine de Samson. Nous ne connaissons pas son nom. Peu de choses nous est dit de cette femme. Par contre, ce qui est clair, c'est que cette femme dans la vie de Samson a été tout le contraire de ce que fut sa maman. Au lieu de s'attacher à son mari, nous le savons, pendant les noces, elle va le presser jusqu'à l'agacer en vue de lui soutirer la réponse à la fameuse énigme. Ce qui, par laquelle il avait lancé un défi aux compagnons du banquet. Voilà pour les deux premières femmes. La troisième, nous ne connaissons pas du tout son nom non plus. Non seulement est-elle philistine, mais en plus, cette troisième femme, c'est une prostituée. Et puis vient la quatrième femme, la seule dont on connaisse le nom. Delila. Sauf qu'à part cela, on ne sait pas grand-chose d'elle. On peut déduire certaines choses du texte. Pour beaucoup de commentateurs, on affirme qu'elle est juive. Son nom est d'origine sémitique, tandis que les Philistins n'étaient pas sémitiques. Il semblerait en tout cas qu'elle soit plus ou moins courtisane et qu'elle possédait des mœurs assez vénales. Bref, mis à part sa mère, les femmes qui ont entouré Samson ne semble guère à la hauteur de l'appel confié par le Seigneur à l'égard de cet homme. Cependant, leur influence et leur présence ont marqué et la vie et le ministère de Samson, pour certaines d'une manière positive et pour d'autres d'une manière négative. Et donc ce soir, nous n'allons pas nous arrêter sur ces quatre femmes, nous n'avons pas le temps, mais nous allons retenir trois, sa maman, la prostituée de Gaza, et puis Delila. Commençons par sa maman. Et si je dois essayer de résumer l'histoire de cette femme, je dirais une femme fidèle, mais dépassée. La maman de Samson, dont on ne connaît pas le nom, est stérile. Mais elle n'est ni Sarah, ni Rebecca, ni Anne. Parce que ces femmes étaient véritablement des femmes avec une foi agissante, qui sont allées à la rencontre de Dieu pour saisir la bénédiction. Tandis que la maman de Samson, c'est un peu, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais une brave femme, une brave paysanne, anonyme, et qui, ma foi, s'était fait une certaine idée de vivre avec cette stérilité. Il ne semble pas qu'elle ait cherché un changement, qu'elle ait demandé à Dieu un changement, puisque lorsque l'ange envoyé par le Seigneur vient vers elle, il ne fait pas allusion à des prières qu'elle aurait fait monter en vue d'avoir des enfants. Il lui dit simplement, tu es stérile et tu deviendras enceinte. La situation de cette femme résume à elle seule Israël. Israël est un peuple qui vit sous l'oppression des Philistins depuis 40 ans, mais qui ne fait monter vers Dieu aucune prière de repentance et aucune demande de délivrance. Finalement, depuis 40 ans, sous l'oppression des Philistins, Israël s'en est accommodé et n'a rien fait pour changer cela jusqu'à ce que Dieu intervienne en sa faveur. Voilà donc l'ange de l'Éternel qui s'approche de cette femme dans les champs et qui va se révéler à elle avec une mission bien particulière. Il va lui demander de veiller sur l'enfant que Dieu lui donne. Et pas n'importe quel enfant. Car cet enfant devra être un Naziréen, c'est-à-dire un jeune homme consacré à Dieu, non pas pour une partie de sa vie, mais pour toute sa vie, dès sa naissance, et devrais-je dire même dès sa conception. Et ce jeune homme, plus tard, serait donc un libérateur avec une mission en faveur d'Israël. Bien entendu, dans les premiers temps, c'est à elle qu'incombait de prendre garde au respect de cette consécration totale de ce Naziréat. Elle-même devait, pendant les mois de sa grossesse, s'abstenir de tout ce qui venait de la vigne. Ce qui, en soi, est une bonne chose pour toutes les futures mamans. Mais qui, évidemment, dans le cas de cette femme, prend une autre dimension, une dimension spirituelle. Elle participe au Naziréat de son fils, à la consécration de son fils, mais plus tard aussi, elle devra élever Samson comme un Naziréen. Qu'est-ce que ça peut donner que d'élever un jeune garçon comme un Naziréen au bout de quelque temps ? Peut-être qu'une photo pourrait nous faire comprendre les choses, parce que se promener avec un garçon qui a les cheveux longs, ça peut donner ceci. Et les gens de se demander, mais qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de faire grandir là ? Un garçon avec des cheveux longs ? Un Naziréen ? Mais on n'avait jamais vu cela en Israël. On n'avait jamais vu qu'un petit garçon soit consacré à Dieu dans un Naziréat permanent. Celui-là, depuis, je crois qu'on lui a coupé les cheveux. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais en tout cas, élever un garçon, un fils, dans le plus haut degré de consécration biblique, au milieu d'une génération corrompue, qui n'a aucune pensée de repentance et de retour vers Dieu, c'est un défi. Mes sœurs, vous êtes toutes des mamans de Samson. Parce que les enfants que le Seigneur nous confie, et vous confie particulièrement, Dieu les connaît dès qu'ils sont dans votre ventre. Et il vous appartient, il nous appartient, de les faire grandir, non pas avec des cheveux longs, mais de les faire grandir avec l'esprit du Naziréat dans un monde corrompu. Et ce n'est pas du fruit de la vigne dont nous voulons qu'ils s'abstiennent, mais de ce que représente le vin de ce monde, la joie de ce monde, des plaisirs éphémères de ce monde. Tant qu'ils sont petits, ma foi, ça se gère. Mais nous savons que grandissant, prenant de la force, eh bien les choses deviennent plus compliquées. Puissions-nous nous fortifier, puissiez-vous, mes sœurs, vous fortifier dans cela et trouver un encouragement dans l'histoire de cette femme. Elle ne devait pas lui couper les cheveux. Ça veut dire qu'aucun homme ne devrait un jour porter la main sur la tête de Samson. Ça me rappelle une autre image. Vous vous rappelez que quand les Hébreux devaient monter, construire des autels avec des pierres, il est dit qu'il ne fallait pas que le ciseau passe sur la pierre. La pierre devait être brute. Ben, tout comme l'autel devait être fait de pierres brutes, Samson, pareillement, devait avoir une chevelure brute, sans que le ciseau passe sur ses cheveux. Finalement, Samson était comme un autel consacré au Seigneur. C'est une mission qu'elle accueillit par la foi. La première fois, c'est vrai qu'elle était un peu hésitante. Elle a demandé à son mari qu'est-ce qui se passait exactement, mais rappelez-vous, à la fin du passage, le mari tout craintif. « Oh, nous avons vu l'ange, nous allons périr !» C'est alors qu'elle va le ramener à la raison, mais puisque le Seigneur nous a confié cette mission, nous n'allons point périr, mais nous allons bien remplir notre tâche. Et donc cette maman, pendant des années, s'est occupée de Samson, qui a grandi, qui fut béni par le Seigneur, mais alors je m'interroge, et peut-être des mamans qui sont là peuvent s'interroger, que dire de la suite, et notamment du mariage de son fils ? Après tant d'années d'efforts, tant d'années de consécration, j'avais cette image aussi. Je vois cette femme comme une Noé. Noé. Rappelez-vous Noé qui a bâti pendant des années l'arche au milieu des colibés. Et cette femme est en train de bâtir un instrument de salut. Cet enfant qui a les cheveux longs. C'est un garçon ou une fille ? Imaginez, ça n'a pas dû être simple tout le temps. Mais qu'est-ce que tu laisses avec cette chevelure ? Parce qu'il est consacré à Dieu. Mais il fallait de la foi pour dire cela. Elle était comme une prédicatrice de justice, à la manière de Noé, pendant des années et des années, au milieu d'un peuple qui n'en avait rien à faire, persévérant dans cette voie. Alors, quand est-ce qu'il vient ce salut ? Mais elle a continué. Et sa joie, c'était de constater, comme le dit la fin de Juge 13, que le Seigneur bénissait Samson. Et puis un jour, elle apprend que Samson veut épouser une Philistine. Ces mêmes Philistins qui empêchaient la tribu de Samson, la tribu de Dan, de prendre possession de leur part d'héritage en Israël. Ces mêmes Philistins qui, depuis 40 ans, oppressaient Israël. Ces mêmes Philistins que Samson était appelé par Dieu à combattre, voilà qu'ils voulaient se marier avec l'une d'entre eux. Tant d'années de préparation gâchées pour un coup de cœur. Beaucoup de papas-mamans au milieu de nous, peut-être, sans parler de cette question-là, ont un jour fait face à cela. Tant d'engagement, d'investissement dans un enfant, et au moment où tout semble partir, eh bien voilà qu'il prend la direction opposée. Et on a du mal à comprendre ces choses. On a du mal à comprendre. Malgré tout, c'est vrai qu'ils vont tenter de le raisonner, en lui rappelant la loi. Mais malgré tout, ils vont l'accompagner. Papa et maman vont accompagner Samson jusqu'à Ptina chez les Philistins pour rencontrer la belle famille en vue des arrangements pour le mariage. Et ils suivent Samson. Ils suivent Samson sans comprendre véritablement ce qui se passe, sans comprendre comment leur fils évolue. D'ailleurs, Samson est très énigmatique. Pourquoi n'a-t-il pas parlé à son père et à sa mère du fait que c'était comme poussé par l'esprit qu'il allait demander cette femme en mariage ? Ça aurait pu rassurer leur cœur quand même. Pourquoi ne leur a-t-il rien dit ? Il ne leur a rien dit aussi, et ça revient plusieurs fois dans le texte, il ne leur dit rien de sa lutte avec le lion. Il leur donne du miel, mais il ne leur dit pas d'où vient le miel. Il leur cache beaucoup de choses. Mais malgré tout, il les garde à côté de lui. Il ne les délaisse pas, il ne se sépare pas d'eux. Il ne va pas habiter chez sa femme. Et il ne fait pas habiter sa femme chez ses parents. Mais sitôt après le début des cérémonies de mariage, il va retourner chez ses parents. Il ne les abandonne pas. Il garde aussi des soins particuliers pour ses parents. Il leur apporte le miel. Et puis, il explique aussi à sa femme qu'il a plus confiance en ses parents qu'en elle. Voilà une bonne parole pour bâtir d'une manière constructive son couple. Mais pourquoi agit-il comme ça avec ses parents ? D'un côté, il est à leurs soins. Il les prend avec lui, mais il est très mystérieux avec eux. Pourquoi fait-il cela ? Parce que quelque part, les parents sont à l'image d'Israël. D'un Israël que Dieu veut délivrer, veut libérer de l'emprise des Philistins. Alors, tout comme Dieu continue de prendre d'Israël, prendre soin d'Israël, Samson prend soin de ses parents. Il demeure avec eux, il demeure chez eux, mais il ne leur dit rien des choses qu'il va entreprendre, conduit par le Saint-Esprit, parce que c'est comme si ses parents n'étaient pas capables de comprendre ce qui allait venir, comme si Israël n'était pas capable à ce moment-là de comprendre ce que Dieu voulait faire à travers Samson. Israël était à des années-lumière de se soucier de ça. Il ne priait même pas Dieu dans un esprit de repentance. Il subissait l'oppression. Voilà les relations de Samson avec sa maman et son papa. Et puis je voudrais passer à cette histoire que nous trouvons dans Juges 16, versets 1 à 3. On pourrait la lire rapidement. Et elle est assez troublante comme histoire. Nous lisons que Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Et ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Et Samson demeura caché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Êtes-vous mal à l'aise avec ce texte ? Pas simple, hein, cette histoire. Et je résume les choses comme beaucoup le disent. Samson a passé une nuit chez une prostituée de Gaza. Permettez-moi pendant quelques instants de tenter de plaider la cause de Samson. Peut-être dans ce que je vais dire, vous allez me trouver très naïf, ou alors vous allez trouver que je ferme volontairement les yeux, mais je voudrais vous dire ceci. Rien ne prouve que Samson ait couché et eu des relations sexuelles avec elle. Vous allez me dire, très naïf, c'est quand même une prostituée. Seulement, la Bible n'a jamais caché, dissimulé les frasques des hommes. Quand Judas va trouver Tamar, elle le dit. Quand David va trouver Bathsheba, elle le dit. Quand Amnon viole sa demi-sœur, elle le dit. La Bible a toujours dit ce qu'elle avait à dire. Or, le texte ne laisse rien paraître concernant un acte sexuel entre Samson et cette prostituée. Aucune critique, aucun jugement négatif, simplement qu'il dormit. Bon, vous êtes libre ou non d'accepter ce que je dis. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi jugeons-nous négativement Samson et que nous n'avons rien à dire contre les espions de Josué, pardon ? Où y sont allés les espions de Josué? Chez Rahab. Quel était le métier de Rahab? Elle était prostituée. Alors pourquoi est-ce que Samson, ça nous dérange, et les espions de Josué? Ah oh non, il n'y a rien, parfait. Ok, c'est difficile d'en dire plus, je veux quand même continuer un peu ma réflexion. Mais me dire, mais Samson, d'accord, mais pourquoi de toute manière t'es-tu exposé en allant chez une prostituée? Peut-être premièrement parce qu'elle ne pose pas trop de questions. Et qu'elle offre un lieu de repos à Samson en vue de l'action qu'il veut entreprendre. Deuxièmement, tout comme dans le cas de Rahab, il est fort probable que les prostituées de Gaza vivaient dans les faubourgs de la ville près des murs et des portes. Et Samson avait une idée derrière la tête. Pourquoi s'exposer en allant chez une prostituée? Peut-être aussi parce qu'à travers l'action que Samson veut entreprendre, il veut rappeler quelque chose à Israël. Tout comme Josué avait fait la conquête de Jéricho après que les murailles se soient écroulées, Samson ne voudrait-il pas essayer d'encourager Israël à se libérer des Philistins en arrachant les lourdes portes de la ville de Gaza qu'il a protégée? Il me semble qu'il y a un rapport entre ce que Samson entreprend et le souvenir de Josué, un rapport entre Gaza et Jéricho. Il me semble que la motivation de Samson n'est pas du tout sexuelle, ce n'est pas la prostituée qui l'intéresse. Il nous y dit d'abord qu'il partit pour Gaza. Il n'est pas parti pour aller chercher une femme, il est parti pour aller vers cette ville. Et là, il y a vu cette prostituée. Écoutez, s'il ne voulait céder qu'à une pulsion sexuelle, il aurait eu 1000 fois l'occasion de trouver une femme sans aller à Gaza. Parce qu'il faut quand même comprendre que Gaza, c'est tout au sud du pays des Philistins. Il fallait qu'il traverse tout le pays des Philistins pour aller jusqu'à Gaza. Il y a quelque chose d'illogique s'il n'est pas motivé par quelque chose de plus grand. Alors Samson est allé à Gaza parce qu'il veut faire de Gaza une nouvelle Jéricho. Il va chez cette femme, peut-être aussi pour rappeler Rahab. Mais la nuit venue, il se lève et il arrache. Il arrache les portes de la ville. Et il va aller les transplanter à un endroit où jamais les Philistins ne pourront les récupérer, en plein milieu de Juda. À 1000 mètres d'altitude sur la colline qui domine Hébron, à 60 kilomètres de Gaza. Comme pour dire, voilà, ce qui fait la force des Philistins, maintenant est au cœur de Juda. Nous avons fait l'essentiel, plutôt Samson a fait l'essentiel. Vous, peuple hébreu, vous n'avez plus qu'à aller faire le reste, à prendre la ville est ouverte. Samson, en forçant les portes de Gaza, ouvrez une voie royale à Israël pour faire la conquête de Gaza. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de faire un constat. Alors que dans les chapitres 14 et chapitre 15, nous trouvons constamment des références à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui agite Samson, ici, malgré la portée de l'exploit, aucune référence au Saint-Esprit. Comme si Dieu n'avait pas dit non, mais qu'il n'avait quand même pas dit oui. Et je me pose la question de cette absence de toute référence à l'Esprit du Seigneur, alors que nous le retrouvons partout ailleurs. Comment est-ce que le Seigneur a-t-il jugé l'action entreprise par Samson? Quel risque venait de prendre Samson ? Pas simplement celui d'être prisonnier, mais comprenez-le, celui de profaner sa consécration. Si vous faites attention à la fin du chapitre 15, vous remarquez que l'histoire avec cette femme de Gaza intervient 20 ans après la fin du chapitre 15. Samson a pris un certain âge. Et il semble que la situation d'Israël n'ait en rien changé. Peut-être qu'à un moment de sa vie, de l'avancement de son ministère, après ces 20 années passées sous silence, peut-être que Samson aurait voulu à un certain moment comme précipiter les choses en s'engageant dans une action héroïque, sans forcément avoir l'aval de Dieu. Il est parti là-bas, mais c'est la première fois dans toute l'histoire de Samson qu'il n'ait rien dit quant à l'approbation de Dieu face à ses actions. Vous savez que des fois, après bien et bien des années d'attente, il peut nous arriver de vouloir précipiter les choses. Dieu peut nous faire grâce, mais en précipitant les choses, il peut nous arriver de nous exposer. Et le problème de Samson, c'est qu'il a commencé à partir de là à nouer des liaisons dangereuses. Je note aussi que malgré l'exploit, c'était quand même un exploit, arracher ses portes, Judas n'a rien fait. Judas n'a pas bougé. D'ailleurs, chaque fois que Samson accomplit un exploit, Judas ou les autres tribus ne réagissent pas. Là aussi, il y a quelque chose de fort. Samson avait arraché les portes de la ville. Il n'avait qu'à envoyer les armées pour faire la conquête de la ville, ils n'ont pas bougé. Le peuple d'Israël est complètement amorphe. Et ça peut peser sur son cœur. Je fais tout ça, et il ne bouge pas. J'entreprends tout ça, toutes les actions difficiles, dangereuses, et ils ne font rien. Oh, combien de fois aussi des serviteurs de Dieu sont passés par là. D'avoir osé, d'avoir enclenché une action difficile, héroïque, pour essayer de réveiller, stimuler le peuple de Dieu. Et quand il se retourne, il n'y a personne. Il n'y a rien. Et pour Samson, ça faisait 20 ans que c'était comme ça. Et je crois qu'après cette action de Gaza, c'est comme si la coupe avait été pleine. Il y a un moment où aucune réaction. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu ensuite l'histoire avec Delila. Nous avons là un Samson qui, pour la première fois de sa vie, ne pense plus à sa mission, mais va penser à lui-même. Il ne pense plus à l'appel de Dieu. Il ne pense plus à délivrer Israël. Mais peut-être parce que, usé, déçu, il va maintenant s'occuper de ses propres sentiments. Voyez-vous, la question avec Delila, encore une fois, mes frères et sœurs, la question avec Delila n'est pas sexuelle. Je vous mets au défi, à partir du texte biblique, de nous prouver qu'il a eu des relations avec cette femme. La seule chose que le texte biblique nous dit, c'est qu'il l'a aimée, mais il ne l'a pas connue. Il l'a aimée. Et Samson n'a pas été piégé sur un acte de fornication, mais il a été piégé quant à ses sentiments. Puisqu'Israël ne me suit pas, maintenant je vais m'occuper de moi. Et donc, il a commencé à se laisser prendre par ses sentiments. Seulement, la femme qui était en face de lui n'était pas la bonne. Pourtant, comme je vous l'ai dit, tout indique que cette femme est une juive. Son nom est juif. Elle habite le haut de la vallée de Sorek qui fait partie du territoire d'Israël. Alors qu'il a su se mettre en garde contre les Philistins, voilà qu'il va se laisser piéger par une juive. Mais cette femme est manipulée. La seule chose qui l'intéresse, nous le savons, c'est l'argent. Alors elle va jouer avec lui. Elle va l'harceler. C'est un véritable harcèlement moral. C'est un harcèlement qui nous rappelle. Et d'ailleurs, ça nous inquiète. Il nous rappelle la première épouse de Samson, la Philistine, qui pendant les noces était allée jour après jour, instant après instant auprès de Samson pour lui dire « Hé, quelle est la solution de l'énigme ?» Et elle, Delila, fait pareil. Elle y va, et elle revient, et elle revient. Et Samson ne retient pas la leçon de sa femme. Et il se laisse piéger par Delila. Lui qui est le fils de la lumière devient aveugle avant même d'être aveugle. Lui dont le nom signifie lumière ne voit rien dans le jeu de cette femme. Au contraire, il la laisse jouer avec lui. Il ne fallait pas beaucoup de discernement pour comprendre ce que cette femme voulait. Pourquoi tant de questions sur cette force et sur l'origine de cette force? Mais il est comme piégé. Il se laisse piéger. Et cette femme tisse une véritable toile d'araignée autour de lui et il n'arrive pas à se dégager de ses sentiments. Pour la première fois de sa vie, il aime quelqu'un. C'est terrible pour lui. Il aime quelqu'un et il ne veut pas sortir de ses sentiments. Mes frères et sœurs, bien des frères et sœurs, bien des chrétiens, un jour, sont tombés dans ce genre de piège. Ils ont aimé quelqu'un. Ils ont servi Dieu. Mais un jour, ils ont commencé à aimer quelqu'un. Seulement, cet amour n'était pas un amour qui venait de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont pas voulu entendre parce que pour la première fois, ils goûtaient à ce sentiment qui est fort et puissant que celui de l'amour. Je ne parle pas l'amour de Dieu, mais l'amour d'un homme envers une femme, d'une femme envers un homme. Et Samson n'a pas voulu en sortir. Et elle va finir par le fatiguer avec ses questions. Je crois qu'il est écrit qu'il avait l'âme impatiente jusqu'à la mort. Et il va lui donner son secret. Ce qui est terrible, c'est qu'après lui avoir donné son secret, elle réussit à l'endormir sur ses genoux. Samson ne réalise même pas ce qui vient de se produire. Il lui a donné le secret de sa force. Mais il est tellement englué dans ses sentiments qu'il se laisse endormir sur les genoux de cette femme. Cette image, qui est pourtant une image de pureté, parce qu'elle nous rappelle quoi ? Une maman berçant son fils sur ses genoux. Eh bien, cette image est devenue hypocrite. Ce n'est plus de l'amour, mais c'est du fiel. Et elle va raser Samson. Dieu avait confié à Samson un appel extraordinaire, unique. Je vous ai montré à plusieurs fois qu'il n'y a pas un autre appel peut-être plus puissant que le sien dans tout l'Ancien Testament. C'est le seul dont il est dit qu'il sera un Naziréen pour toute sa vie. Consacré d'une manière toute particulière à Dieu, avec un plan de Dieu sur sa vie, même avant sa naissance. Mais quand Dieu confie un appel et des talents et des dons d'une envergure exceptionnelle, l'engagement doit être total. Il ne peut subir aucune erreur. Et la faute de Samson n'a rien à voir avec un côté sexuel. La faute de Samson est venue d'un côté, certainement, de ce sentiment d'abandon, d'être non suivi par son peuple, et puis ensuite de s'être livré à ses propres sentiments. Mais au moment où elle a rasé ses cheveux, à l'instant même, Dieu s'est retiré de lui. Et il était vaincu. Mes frères et sœurs, l'histoire de Samson doit nous parler. C'est l'histoire d'un homme à qui Dieu a confié une mission extraordinaire. Un homme qui a souvent été incompris par les siens. Et un homme qui, un jour, a laissé ses sentiments s'exprimer. Et ses sentiments l'ont terrassé. Nous devons prendre garde à cette consécration, à cette fidélité, à l'appel que le Seigneur nous adresse. Pour conclure, je dis ces deux choses. Premièrement, Samson s'est impatienté. Samson s'est impatienté dans l'accomplissement de son ministère au point de déclencher une action héroïque, mais ô combien risquée. Il s'est impatienté. Il a voulu provoquer les choses. Mais Israël n'a pas suivi parce que Dieu n'était pas pleinement avec lui. Ça nous renvoie à Moïse. Deuxièmement, au bout de 20 ans de ministère, Samson a faibli dans sa consécration. Il y a eu comme une usure de Samson. Et parce qu'il était seul et incompris à ses yeux, il a laissé ses sentiments envahir sa vie. Puisqu'ils ne me suivent pas, maintenant je vais m'occuper de moi-même. Et à partir de là, il est devenu une proie facile pour l'ennemi. La marche avec le Seigneur est longue. Et elle nécessite de garder cette communion avec lui. Parce que trop de frères et sœurs ont un jour fini sur les genoux d'une Delila et ont été tendus, pour avoir laissé leurs sentiments les dévorer. La prochaine fois, nous parlerons de l'humiliation de Samson, mais nous parlerons aussi de sa rédemption. Parce que Dieu a eu compassion de cet homme. Et ça aussi, c'est un encouragement.